Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Paix et sécurité au Mali, quel rôle et apport des femmes? Sont-elles suffisamment impliquées dans le processus? Quelles sont leurs attentes? Le Grand Dialogue du studio Tamani pose le débat. Nos invités sur ce plateau, Diallo Mariam Dramé, présidente de l'association Femmes Leadership et Développement Durable, c'est bien ça?
Oui.
Diop Djeneba Mariko, présidente de l'association pour la protection et la promotion des droits des femmes et des enfants. Khadija Meiga, consultante sur les questions de paix et sécurité au Sahel. Nous serons avec Mamadou Diouara par téléphone. Je suis Fatmata Togola. Nous ouvrons le débat avec vous, Madame Diallo. Les femmes sont-elles suffisamment impliquées dans la résolution de la crise au Mali?
Je dirais tout de suite non. Parce que lorsqu'on regarde les différents comités de mise en œuvre de l'accord, on note une absence flagrante des femmes, que ce soit dans le comité de suivi, que ce soit dans les autorités intérimaires. Les femmes brillent par leur absence et ça, c'est inacceptable. Quand on sait que dans cette crise, c'est les femmes ont payé le lourd tribut avec le lot de déplacements, avec les violences qu'elles ont subies. Et donc, c'est vraiment malheureux que aujourd'hui, nous soyons en train de résoudre cette crise en fait sans les femmes et en violation flagrante de toutes les lois qui sont en vigueur.
D'accord. Et vous, madame, votre réaction?
Et oui, je suis aussi de cet avis parce que quand on regarde à travers tous ces discours, chaque fois on dit implication des femmes dans le processus de réconciliation et de paix. Mais quand on regarde réellement certains aspects, on voit réellement l'absence des femmes, surtout on sait qu'en période de conflit, ce sont les acteurs même, elles font partie des acteurs passifs, surtout ceux qui subissent, à travers soit leur propre douleur, soit à travers la disparition forcée des maris, des frères, cousins, ou même l'enrôlement des enfants. Donc, je dis, il ne peut pas avoir de processus de paix ou de parler de réconciliation sans une implication réellement inclusive de nous, les femmes.
D'accord. Alors, Madame Meiga, quelle est votre observation face à cette situation?
Je partage l'avis de mes collègues autour de la table. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que les femmes sont brillées par leur absence hein, dans les instances qui doivent aujourd'hui résoudre les questions de la mise en œuvre sur les questions de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Et cela montre effectivement qu'il y a un manque d'inclusivité dans le processus de paix. Et ce qui ne peut être juste continuel.
D'accord. Alors nous revenons à vous, Madame Diallo. Quel rôle les femmes ont-elles joué dans le processus de paix au Mali?
De manière générale, si on retourne déjà en 91, lorsqu'on regarde, les femmes ont joué un rôle important dans l'accession à la démocratie. Mais là, encore une fois, qu'il fallait donner la place aux femmes dans les prises de décision, dans les gouvernements, dans l'Assemblée et autres, on n'a pas tenu compte du genre dans les dispositions qui ont été mises en place. Et par la suite, plus récemment, en 2012, on a vu les femmes qui se sont battues pour aller à Ouaga, parce que déjà, au niveau de la délégation qui est partie à Ouaga, il n'y avait pas de femmes. Donc, il a fallu que les femmes fassent un plaidoyer pour qu'elles puissent aller. Et même là, quand elles sont allées, elles ne sont pas allées au même titre que les hommes. Et on a vu les femmes dans les différentes manifestations qui ont eu lieu pour appeler à la paix. Et aussi, beaucoup d'organisations féminines qui ont travaillé dans le nord de notre pays pour faire des enquêtes sur les violations, pour apporter des soutiens psychologiques aux femmes qui ont été victimes. Et encore aujourd'hui, certains de ces projets continuent. Et donc, il n'est pas normal que les femmes ne participent pas, surtout au nom de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui exige qu'il y ait une participation égale des hommes et des femmes au processus de paix.
D'accord. Oui, allez-y, Madame Meiga.
Je reviens également sur effectivement depuis dans l'histoire même du Mali, les femmes ont toujours été actives en fait dans la résolution de dans tous les processus des différents conflits qu'on a connus, des différentes crises que nous avons connues depuis même avant avec le Soudan français où on a connu des grandes femmes comme Hawa Keïta qui sont toujours battues pour vraiment impliquer pour être présente et s'impliquer dans la résolution des différentes crises que nous avons. Au-delà de mars 91, en octobre 92 également, nous avons eu des femmes comme le mouvement national pour la paix avec le docteur Mariam Meiga, qui sont des femmes qui se sont vraiment battues pour être impliquées dans le processus de paix, dans toutes les phases du processus de paix, de la prévention à la résolution et à la période post-conflit. C'est indéniable aujourd'hui que ce rôle inclusif-là est nécessaire pour une paix durable, en fait, qui va dans le temps.
D'accord. Alors, madame Diop, nous revenons à vous.
Et bon, c'est vrai, les femmes sont impliquées dans la résolution du conflit, mais en tout cas pas de la manière dont nous, quand même, nous voulons. Franchement, quand on regarde souvent lors des rencontres, on fait plus appel à certains acteurs, surtout à certains hommes qui ont plus de voix qu'à certaines femmes.
Qu'est-ce qui explique cela dans ce cas?
Bon, je me dis, on est quelque part, c'est comme si on veut nous écarter un peu. Parce que toutes les femmes ne sont pas impliquées. Souvent même, comme j'ai l'habitude de le dire, personne n'est perdu d'une prison si ce n'est pas un prisonnier. Il ne faut pas qu'on fasse venir certaines femmes qui peuvent parler au nom réellement de ces victimes-là, qui sont réellement victimes de conflits, qui ont subi des choses. Et ça, moi, à travers mon association, on a eu à voir ça. Souvent, quand on demande d'impliquer certaines personnes directement concernées, on nous dit non, il faut juste aller. On essaie de nous amener, ou surtout d'imposer celles dont eux, ils veulent. Bon, souvent également, ces autres femmes, je me dis, c'est quelque chose, vous savez, ça commence depuis la famille, notre société étant une société patriarcale, donc dans certains milieux, beaucoup de milieux d'ailleurs qui ont subi les violations, on dit la femme n'a pas droit à la parole. Ce qui fait que dans ces rencontres-là, il y a beaucoup également qui se gênent. Même quand on essaye de les amener avec nous, ils vont dire non, il y a les hommes, nous ne pouvons pas parler. Bon, je me dis, il faut essayer de déconstruire ces mythes et ces préjugés-là. Depuis dans nos familles, oui, pour que tout le monde puisse être impliqué.
Alors, Monsieur Juara, votre réaction sur la question. Monsieur Juara, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Oui.
Voilà. Donc, je voudrais merci beaucoup. D'abord, je tiens à préciser que les femmes ne sont pas tout à fait absentes dans le processus de paix. Même s'il faut reconnaître qu'elles sont très faiblement représentées. On a quand même plusieurs organes dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, au rang desquels, naturellement, il y a le comité de suivi de l'accord que Madame a bien voulu citer. Au-delà de ce comité de suivi de l'accord, il y a le Conseil national de la réforme du secteur de la sécurité, dont tous les ministres sont membres. Et je tiens à rappeler que l'actuel gouvernement est respectueux de la loi sur le quota, pour ce qui concerne les femmes. Et d'ailleurs, qu'une femme occupe l'un des portefeuilles les plus importants, notamment le portefeuille des affaires étrangères. Maintenant, en dehors de cela, il y a également la commission de vérité, justice et réconciliation qui rentre dans le cadre des dispositions du titre 5 de l'accord, dont, n'est-ce pas, certaines femmes sont parmi les vice-présidentes et parmi les commissaires. Donc, je crois qu'il y a quand même de la présence. Et quand on regarde, par exemple, la Commission nationale des guerres, il y a beaucoup de femmes au niveau de la coordination, au niveau de la Commission, il y a quelques-unes qui sont présentes. Maintenant, est-ce qu'elles sont suffisamment représentées? Je pense que non. Au regard des dispositions internationales et des dispositions nationales, il n'y a ni le respect de la loi sur le quota, qui est une réglementation nationale, ni le respect effectif de la 1325, tel que indiqué dans l'ensemble des processus de mise en œuvre de l'accord. Donc, ce qui justifie un plaidoyer en faveur de l'implication des femmes parce que leur non-implication effective constitue un manque à gagner pour le processus de paix et donc va provoquer une carence dans les politiques post-conflit qui seront amenées à être élaborées.
Alors,
voilà. Maintenant, oui. Effectivement, comme Madame l'a dit, il y a tout un construit social qui va de la famille à l'espace public pour ce qui concerne les rôles des femmes et des hommes. Et ce construit social, malheureusement, affecte notre propre comportement à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que ça se manifeste avec ou sans initiative extérieure. Et donc, il est important de faire encore beaucoup de sensibilisation auprès des populations, auprès des acteurs, pour que tout le monde comprenne définitivement que les femmes doivent être impliquées et de façon équitable. On ne dirait pas de façon égale, mais de façon équitable, parce que la question du genre est une question d'équité plutôt qu'une question d'égalité.
D'accord. Alors, je vais demander à Mme Diallo si elle est d'accord avec les propos de M. Diouara concernant cette question.
Non, bon, je crois que les chiffres sont là, hein, c'est-à-dire que le principal organe aujourd'hui pour la paix au Mali, c'est le comité de suivi. Je crois qu'ils sont 30 et quels, il y a zéro femme. Donc moi, je me limite là. C'est-à-dire que c'est là que les choses se décident. Donc c'est aussi ça le problème, c'est-à-dire que tout ce qui est vraiment stratégique, les femmes, elles sont absentes et on les met un peu une, deux dans le reste. Donc je pense que ça, il va falloir qu'on corrige ça. Mais au-delà des chiffres et de l'absence, il faut qu'on comprenne pourquoi il faut qu'il y ait des femmes. Parce qu'en fait, ces comités, ils vont prendre des décisions importantes, comme il l'a dit. Il y a eu le DDR qui est là, il y a les autorités intérimaires aussi. Et dans ça, il faut qu'il y ait une réflexion pour voir comment impliquer, tenir compte du genre. C'est-à-dire comment répondre aux besoins spécifiques des femmes dans toutes ces différentes activités. Et comment aussi apprendre des leçons de la crise pour faire en sorte que certaines erreurs qui ont été commises, qu'il y ait une réparation aussi des préjudices qui ont été subis. Et qui peut faire ça mieux que les femmes? Et donc, si elles sont absentes, ce qu'on appelle les dividendes de paix, elles ne bénéficieront pas des dividendes de paix au même titre que les hommes. Et donc, je suis d'accord avec lui. Et là, il n'y aura vraiment pas d'équité. Parce que là, les dividendes, actuellement, c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Donc je crois qu'il faut expliquer pourquoi il faut faire venir les femmes. C'est pas faire venir les femmes juste pour faire venir les femmes, pour compétir avec les hommes. C'est vraiment, c'est important pour consolider une paix durable. Parce que lors de la crise, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de violences, il y a eu beaucoup de violences sexuelles. Il y a aujourd'hui, devant les tribunaux, nous avons ces cas qui sont là, mais il y a très peu de verdicts qui ont été rendus. Et donc, au nom de la justice transitionnelle, au nom de la réconciliation, vous avez ces femmes et ces filles aujourd'hui qui vivent avec leurs bourreaux, sans aucune réparation. Et on les sensibilise, on leur demande de rester. Donc je crois qu'il est important de rappeler que la nécessité d'avoir des femmes au même titre que les hommes dans le processus de paix, c'est vraiment pour consolider la paix et pour aussi qu'il y ait une réparation des préjudices subis.
D'accord. Alors, M. Diouara, êtes-vous convaincu des propos de Mme Diallo?
Oui, je pense que nous sommes dans la même orientation en termes d'analyse sur la question. Premièrement, pour ce qui concerne le comité de suivi de l'accord, je suis d'accord que c'est un organe important, mais le comité de suivi de l'accord est chargé de faire le suivi de la mise en œuvre. Mais la mise en œuvre elle-même est confiée à des entités. Ces entités-là sont diverses, elles ne sont pas moins importantes, parce que quand on prend la CVJR, par exemple, la commission chargée des victimes confiée à une femme, je pense que c'est Mme Dandelé Oulematou Sow qui est à la charge de ça, si je ne me trompe pas. Il y a un certain nombre de choses, mais je suis tout à fait d'accord que les femmes sont très faiblement représentées. Et je suis d'accord avec elles l'importance d'expliquer aux gens pourquoi c'est nécessaire d'impliquer les femmes. Parce que on ne peut pas définir les besoins des femmes en leur absence. Il faut que les femmes soient là pour les définir. 70% de la population est féminine, sinon au-delà. Donc on ne peut pas se permettre de mettre en marge la grande majorité de la population. Troisièmement, pour revenir un peu à certains propos qu'une des intervenantes a dit au début de l'émission,
Il faut se rappeler que de 2012 à nos jours, toutes les actions importantes qui ont été posées dans le cadre de la crise, qu'elles soient à titre d'incitation à la crise ou d'apaisement de la crise, sont au début posées par des femmes. On se rappelle qu'avant le déclenchement de la rébellion à Menaka le 18 janvier, il y a eu d'abord les manifestations des femmes à Kidal. On se rappelle également qu'avant le coup d'État du 22 mars, c'est les femmes de Kassim qui ont commencé à se manifester et à marcher. Mais comme elle l'a cité, c'est aussi les femmes qui ont forcé la porte des négociations à Ouagadougou. Et à Alger, les femmes sont parties faire un fort plaidoyer. Ici, à l'intérieur du pays, il y a plusieurs organisations de femmes qui se battent. On peut citer plusieurs. Il y a la docteure Mme Djibrila Maïga qui vient de produire le tout premier livre blanc sur la sécurité dans l'histoire du Mali. Il y a le Resteco qui se bat. Il y a Wildaf qui se bat. Il y a la CAFO qui est présente dans toutes les collectivités pour faire face aux différents problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Donc les femmes sont au devant, mais elles sont plus présentes dans la société civile par leur initiative propre, qu'elles ne sont impliquées dans les processus légaux initiés par l'État ou bien prévus par l'accord.
D'accord, mais
le dernier point sur lequel je voudrais intervenir, c'est de dire que le fait que souvent, dans les organes de mise en œuvre de l'accord, on n'a pas suffisamment de femmes ou de jeunes, souvent aussi c'est lié au mode de désignation qui a été prévu. Parce que dans ces groupes, on a les représentants de l'État, aux côtés desquels on a également les représentants des groupes armés. L'État peut faire des efforts, ce n'est pas toujours le cas, mais les groupes armés aussi doivent faire des efforts pour que dans leurs représentants, on puisse retrouver des femmes et des jeunes.
D'accord, M. Diouara. Alors, Mme Maïga, suite à l'analyse de M. Diouara, la présence des femmes est plus notifiée dans la société civile. Pourquoi cela ?
Alors les femmes déjà maliennes, même en général, et la femme africaine en général, sont des femmes très actives. Donc elles s'impliquent et elles organisent la société. Et c'est de facto ainsi, la société civile, c'est de facto l'espace où elles se retrouvent et où elles peuvent discuter des choses. Ça va être les marchés, ça va être... C'est l'espace public et l'endroit où elles se retrouvent de manière naturelle. Ensuite, évidemment que ces femmes-là sont présentes aujourd'hui dans la société civile, qu'elles sont très actives, qu'elles se battent. On a donné de bons exemples de femmes qui se battent, et il y en a même autour de la table aujourd'hui. Mais le défi aujourd'hui, ce n'est pas juste qu'elles soient présentes dans la société civile, mais c'est qu'elles soient entendues, que les revendications que les femmes portent soient entendues et soient appliquées. C'est aujourd'hui là le défi. Et cela peut être porté autant par des femmes que par des hommes. D'où la nécessité, donc, que je rejoins Mme Diallo, de sensibiliser en fait sur l'importance en fait que les femmes soient présentes. C'est que c'est pas juste le fait qu'elles soient présentes qui est opportun aujourd'hui, mais également qu'elles soient entendues, leur revendication soit entendue et soit portée, autant par des hommes que par des femmes, en fait, finalement. D'accord. Donc, qu'on comprenne la nécessité de le faire.
D'accord. Alors, Mme Diop, pourquoi faut-il vraiment les femmes à la tête, ou, si je ne puisse me le permettre, dans ce processus de paix-là ?
Non, elle a raison, et je la rejoins un peu quand elle dit qu'il ne faut pas seulement que nous soyons présentés. Et je m'excuse, mais qu'on arrête vraiment de faire de nous des compléments d'effectifs juste parce qu'on en a besoin de tel ou tel. Mais il faut réellement que nous soyons...
Mais attendez,
entendus.
D'abord, quand vous dites complément d'effectifs, qu'est-ce qui a amené cette situation-là ? Le fait que les femmes soient des compléments d'effectifs.
Ça, c'est pas ce que nous avons voulu. Et ça ne serait jamais ce que nous voulons, même pour le futur. Mais toujours, parce qu'on a besoin d'une femme, maintenant, surtout avec cette loi, il y a beaucoup qui ont peur. Il faut qu'il y ait une femme, deux ou trois, comme l'a dit au départ Mme Diallo. Non, c'est pas ça. On veut réellement que nous voulons réellement être entendus. Prenez, par exemple, les cas de violences sexuelles. Je me rappelle une fois, il y a une dame qui me dit, Mme Diop, j'ai été violée deux fois. Je dis comment deux fois? Elle me dit, non seulement j'ai été atteinte dans mon intégrité physique, mais le fait réellement que j'entends souvent comme quoi il n'y a pas eu de violence sexuelle chez nous, parce que notre tradition ne permet pas ça. Franchement, ça fait encore plus mal que l'acte même qui a été posé. Donc, qu'on nous laisse nous exprimer. Souvent, quand tu touches à certaines sensibilités, on dit non, franchement, c'est pas l'espace indiqué pour en parler. Je me dis, bon,
comme disent les Bambaradjultes Soumaneka, c'est sûrement pour cela qu'on ne veut pas que nous nous allons et dans certains espaces pour nous exprimer. Mais on ne peut pas parler de réconciliation sans réellement traiter les bases même de ces souffrances-là. Et ces souffrances ont réellement été vécues par les femmes. Donc on ne soit pas là comme figurante, qu'on se fasse entendre et aussi qu'on nous donne l'occasion de nous faire entendre.
D'accord. Madame Diallo.
Oui, non, moi je dirais que personne ne va nous donner l'occasion de nous faire entendre. C'est-à-dire que si on veut se faire entendre, il faut qu'on se donne les moyens nous-mêmes. Parce qu'en fait, c'est pas... Et nous, les hommes ne nous feront pas de cadeaux. Et quand elle disait tout à l'heure qu'on n'est pas des compléments de liste, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tout est décidé et qu'ils ont décidé tout entre hommes, là, pour se faire bonne conscience, ah oui, invitons certaines femmes, machin. Mais nous, on n'est pas dans, au cœur des décisions. Donc, au-delà de tout ça, il y a autre chose que nous, femmes aussi, nous devons comprendre. Tous ces comités, toutes ces places qui sont occupées par des hommes, eh bien, il faut comprendre qu'il y a des avantages qui sont liés à ces postes. Ça fait plus de 2 ans qu'on a un groupe de femmes leaders. Avec la MINUSMA, on essaye de faire le plaidoyer justement pour que plus de femmes investissent ces différents organes, mais on n'arrive pas pour la simple raison qu'au nom des avantages justement et de tout le prestige qui vont avec ces postes, eh ben c'est pas, on ne nous fera pas de cadeau et personne ne va laisser sa place à une femme. Donc comme les femmes aussi doivent intégrer ça, que c'est vrai qu'on fait notre plaidoyer, mais il faut qu'on réalise qu'on est en compétition des fois, pas toujours. Et donc, quand nous voulons quelque chose, c'est à nous de travailler, c'est à nous de nous donner les moyens pour obtenir ce que nous voulons, parce que personne ne nous fera de cadeaux.
D'accord. Alors, Madame Diop, concernant le propos de Madame Diallo, concernant le fait que c'est aux femmes d'aller chercher ce qu'elles veulent concrètement.
Oui, là, c'est vrai, c'est à nous réellement d'aller chercher ce que nous voulons. Bon, ça, également, souvent... Il faut, en période de conflit, surtout pour la résolution de conflits, que les unes et les autres essaient de mettre certaines petites choses de côté. Et comme elle a dit, pour qu'on se batte pour la même cause.
Quand vous dites certaines petites choses...
Bon, je... Il y a M. Diawara qui est là, qui nous entend. Mais on sait que souvent, entre femmes, il y a plus... problème de leadership qui est là, l'une des moi je vais dire non, je vais pas céder la place à Mariam, ainsi de suite. Mais là, il s'agit réellement de l'avenir de la nation et même du futur. Nous sommes en train d'aller vers une autre phase de notre histoire. Donc, nous devons nous donner la main, qu'on laisse les petits différents de côté et nous donner la main, faire quelque chose réellement de potable pour la sortie de cette crise-là.
J'aimerais réagir.
Oui, allez-y, Madame Diallo.
C'est-à-dire, ce qu'elle vient de dire, on appelle ça, ça c'est un préjugé, un stéréotype des femmes.
Oui.
Dire qu'on fait des querelles. Mais vous pensez que les hommes, ils ne font pas de querelles?
Non,
en fait, ça, non, ça, c'est un stéréotype classique qu'on met sur le dos des femmes. Mais je peux vous assurer que pour mettre en place ce genre de comité, vous ne pouvez même pas imaginer les tractations que font les hommes, les querelles que font les hommes partout. Quand il y a un poste à pourvoir, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, il y aura toujours une guéguerre. Mais ça, c'est un stéréotype qu'on met sur le dos des femmes, mais en réalité, qui est partagé, et ça, c'est universel. Au moment, lorsqu'il faut pourvoir des postes et que les postes sont limités, bien, évidemment qu'il y aura des querelles. Et les guéguerres qu'on met toujours sur le dos des femmes, je ne connais pas un groupe d'hommes qui fonctionne de manière harmonieuse. Combien de dissensions nous voyons dans des partis politiques où des hommes se déchirent ou dans des organisations ou autres. Donc là, c'est un stéréotype aussi auquel il faut faire attention. Ce quereller, ce n'est pas propre seulement aux femmes, mais c'est stéréotypé.
Là, je sais. Moi, je parle... surtout, je prends l'exemple sur tout ce qu'on a eu à faire ensemble. Souvent, tu fais appel à certaines personnes. Je parle de mon expérience personnelle. Oui. On te dit, ah non, il y a une telle qui fait partie. Moi et elle, franchement, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. C'est ce que je dis. Donc, à travers tout ce que nous faisons, je suis quelque part également qui n'est pas l'association APRODEF. Donc, ça nous rend tellement la tâche plus compliquée. J'étais même dans la même dynamique que toi, comme quoi ce sont des préjugés. Mais, ma chère, souvent, il y a certaines réalités qui sont là.
Mais je vais te donner des exemples d'hommes dans la même situation.
Je sais que ça existe. Dans ce cas, nous allons demander à M. Diouara de répondre à cette question.
Non,
en ça, tant
on
comme...
connaît déjà sa réponse.
Alors, M. Diouara, oui, allez-y.
Oui, je pense que, en fait, les deux analyses se valent sans nécessairement rentrer en conflit. Ouais. C'est-à-dire que, autant la raison de dire que ce problème existe chez les hommes est universel, c'est vrai, c'est la dynamique de groupe et le jeu des acteurs dans la conquête du pouvoir et dans la quête de positionnement. C'est toujours de la belligérance, de la rivalité, de la compétition. Mais en même temps, il y a deux dimensions qu'il faut prendre en compte et qui me semblent importantes pour cerner la question. La première dimension, c'est que les femmes au Mali, dans le cadre de la société civile, ont énormément de difficultés liées au conflit de leadership. Pourquoi ça devient un problème? Ça le devient parce que aujourd'hui, quand il s'agit pour l'État de prendre des femmes, l'État va choisir au sein de la société civile les femmes actrices. Sauf qu'il n'y a pas d'organisation aujourd'hui représentative où les femmes s'entendent. À chaque fois que tu prends une femme, tu as un autre camp contre quoi. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai participé à plusieurs cadres avec des organisations internationales ou souvent avec le gouvernement où on a besoin d'impliquer les femmes. Mais on se demande, quand on veut prendre au niveau de la CAFO, il y a un conflit, il y a un procès, le siège est fermé, on ne sait pas, il y a un bureau qui se dit légitime, un autre bureau qui se dit légitime, lequel est légitime. Ça, c'est un problème à ce niveau au Mali actuellement. Et plusieurs fois, quand on veut mettre en place des programmes, les querelles de leadership font que les organisations ou les groupes, les dynamiques engagées meurent. Maintenant, ceci est un problème à part. La deuxième dimension que je dis, c'est quoi? C'est que pour l'État, lorsqu'il est question d'impliquer les femmes, on n'a pas besoin forcément de passer par la société civile. L'implication des femmes, par exemple, quand c'est une question qui relève du ministère de l'Environnement, il faut voir les femmes cadres qui sont au sein du ministère de l'Environnement et il faut assurer la promotion de celles-ci. Si c'est la santé, il faut voir les femmes qui sont dans le secteur de la santé et les promouvoir. Il ne faut pas que la femme soit vue seulement comme membre.
Monsieur Diouara, vous êtes avec nous? Alors, toutes nos excuses pour ce léger contretemps avec le réseau. Nous allons demander à Madame Meïga, alors, qu'est-ce que vous pensez de ces deux dimensions que Monsieur Diouara vient de nous exposer?
Moi, je vais d'abord partir revenir sur le débat.
Oui, allez-y.
Le fait que les femmes, déjà, cette guéguerre-là, qu'on explique, qui existe également. Je pense que ce qu'elle veut dire, en fait, pour appuyer Madame Jobs, ce n'est pas tant que cela n'existe pas chez les hommes ou pas, ou aussi chez les femmes, mais c'est que nous, les femmes, en fait, on doit travailler deux fois plus pour éviter cela. On doit aller surpasser, justement, être au-dessus de ce qui existe déjà naturellement chez l'homme, avec un grand H, pour avancer. En fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Il faut qu'on comprenne, en fait, qu'on, dans tous les postes où, voilà, où il y a de la compétition, on travaille deux fois plus et on donne deux fois plus. Et c'est juste l'apport que je voulais apporter sur cela.
Et concernant les deux dimensions prises en compte par M. Diouara, quand tu nous parlais de leadership,
Mais ça rejoint totalement en fait ce que les dames disaient justement.
D'accord, oui, Madame Diallo.
C'est-à-dire que il faut faire une différence entre le leadership et le fait de le généraliser aux femmes. Les mêmes organisations qu'il a citées, moi je peux vous assurer, les mêmes organisations, je ne dirai pas le nom de la région, vous prenez les mêmes organisations, vous allez au niveau régional, vous serez étonnés. Vous allez voir les présidents de chacune de ces organisations respectives travailler main dans la main. Et j'étais vraiment étonnée, je leur ai dit, mais je ne comprends pas. Je suis arrivée chez une pour faire une enquête et autres. Elle m'a systématiquement emmenée chez 10 autres, les plus importantes dont on parle. Et elles m'ont expliqué qu'elles travaillent quotidiennement ensemble. Donc il faut faire une différence entre le leadership d'un individu, homme ou femme, et généraliser ça à un genre. Parce que ça, c'est dangereux. Parce que tout ce qu'on peut attribuer aux femmes, en réalité, c'est valable pour les hommes. C'est ça, c'est pas inné. Les femmes, on n'est pas nées avec... on n'est pas nées pour faire la guerre, on n'est pas forcément plus susceptibles ou autre. Donc ça, c'est des stéréotypes, justement, que si nous-mêmes, les femmes, nous continuons à perpétuer ce genre de stéréotypes et de préjugés, ce sera pas bon pour nous. Parce qu'en fait, on est toujours méfiant des femmes, on va toujours se fermer. Vous serez étonné de voir des femmes, quand vous les nommez à des postes, elles vont s'entourer d'hommes. Vous leur demandez pourquoi vous ne prenez pas les femmes, elles vont vous répéter les mêmes stéréotypes. Ah, elles ne viennent pas, elles sont en retard, oh, elles vont... Et ça, c'est, voilà, ça va pas aider la cause des femmes à avancer. Ça ne favorise pas, en fait, l'équité. Ça ne favorise pas ce vers quoi on veut aller, c'est-à-dire un développement harmonieux. Donc, nous-mêmes, on a un travail pour déconstruire, en fait, toutes ces croyances. Parce qu'il y a une différence entre le leadership d'un individu et généraliser ça à tout un groupe. Parce que je peux vous assurer que vous changez de contexte, vous verrez ces mêmes organisations en train de travailler au quotidien ensemble.
Madame Diop.
Et bon, elle parle du niveau régional. Moi, je ne suis pas rentrée dans les régions aimées. Quand j'ai pris même mon projet, la première personne à qui je l'ai montré, c'est un homme. Il m'a dit, Onili, me dit, avec ça, tu vas nulle part. Je dis, comment? Il me dit, déjà, il y a deux de ces entités qui se trouvent dans ton projet. Tu verras bien, ces gens-là ne vont jamais s'entendre, ne vont jamais mettre main dans la main comme tu le veux. Je dis, non, ça, je ne suis pas dans ça. Déjà, moi, j'ai fait mon projet, je sais ce que je veux, je vais aller vers elle. La première personne que je contacte me dit, donc quand j'ai cité ce que je veux, donc elle m'a beaucoup encouragée. Maintenant, j'ai cité le nom des organisations que je veux mettre et immédiatement, ce que l'autre m'a fait sortir, c'est ce que la bonne dame me dit, non, déjà, il y a une telle, c'est ce dont je parle, Mariam. Souvent, même quand il y a des différends entre nous, de les mettre de côté. Donc moi, je ne peux pas comprendre que nous, étant les cadets et que nous devons suivre, disons les cadettes, nous devons même suivre les pas de celles dont on prend pour des modèles qui nous fassent ressortir ce genre de choses, surtout en période de conflit.
Mais ne serait-ce pas, si c'est le cas, pourquoi ce ne serait pas aux cadets de montrer aux aînés qu'ils ne sont pas sur la bonne voie?
Bon, non, ça...
Non, mais c'est ça que j'aimerais lui dire. Mais en quoi le mouvement féminin au Mali se limite à ces organisations? Si ces organisations ne peuvent pas participer à ton programme, il y en a 20 autres qui pourront
participer. Non, mais je les ai laissés. Mais voilà. Au départ, c'est ce que je disais. Donc, moi, j'ai fait la mauvaise erreur. Parce que, vous savez, quand on est nouvellement dans la chose, tu as toujours besoin de conseils de ceux qui t'ont ou celles qui t'ont précédé. Donc, j'étais dans cette optique-là. Maintenant, je les ai rapprochés. Mais j'étais très, très étonnée. Mais après, je me suis même entourée après des organisations de jeunes. Voilà, en fait, où il y a femmes et hommes dedans. Mais au départ, mon groupe cible visé n'était pas actuellement ceux avec qui je suis. Donc, je voulais réellement de conquérir parce que je me suis dit, ce sont des gens qui ont vécu et les événements de 91, pendant que d'autres étaient encore au berceau, dans le berceau. Je voulais de l'expérience surtout et surtout des conseils. Mais j'ai vu que avec ce différent qui est là, je ne vais aboutir à rien du tout. Donc, j'étais obligée avec le chargé de programme. On a changé de groupe cible. Maintenant, on est parti avec d'autres organisations.
Je vais donner un exemple. Quand on a créé AFLED en 2010, c'était l'organisation, on va dire, féminine, dirigée par des jeunes, on va dire un peu la première, qui venait dans le milieu et autres. Et je peux te dire qu'on n'a eu aucun cadeau. Je me retrouvais seule dans des réunions avec toutes ces femmes, qui sont mes mamans pour la plupart, mes tantes. Et voilà, personne, elles ne m'ont pas fait de cadeau. Mais comme je t'ai dit, avec le travail, avec la détermination et le leadership, en fait, aujourd'hui, toutes ces bonnes dames, elles ne font rien sans m'appeler. Ce n'est plus moi qui les appelle. C'est elles qui m'appellent, elles veulent que je participe, elles veulent que mes membres participent. On se donne des conseils. Et toutes ces dames, d'ailleurs, qui sont en conflit, moi, personnellement, je peux les voir toutes les deux facilement. Donc, c'est vraiment une question de démarche aussi. Parce que, imagine, quand on arrive, ces femmes, elles ont vu des, comment on dit, des vertes et des pas mûres. Elles ont traversé beaucoup de choses. Parce que nous, aujourd'hui, ça va, on est en démocratie et autres. Mais pour certaines d'entre elles, surtout la première génération, voilà, elles ont fait la clandestinité. C'était pas facile. Donc, elles ont vraiment beaucoup trimé pour arriver là. Donc, elles sont un peu sur leur garde. Et elles ont aussi pas envie de nous faciliter la tâche. Elles veulent aussi que nous leur montrions de quoi nous sommes capables. Et en fait, une fois que ça s'est fait, le reste est facile. Elles s'ouvrent et elles sont prêtes après à nous accompagner. Mais au départ, elles ont d'abord besoin de nous regarder, de voir en fait quelles sont nos motivations, quelles sont nos intentions. Et comme elle a dit, aujourd'hui, on est dans une phase de transition. Parce que ce qu'on appelle le dialogue intergénérationnel, il n'a pas été véritablement fait. Donc aujourd'hui, on a des jeunes qui arrivent, mais qui ne sont pas forcément bien formés sur le mouvement. Et malheureusement, le mouvement, il est en crise à cause de ce conflit qui est là et qui n'est pas résolu. Donc moi, je pense que c'est aux jeunes femmes aussi, maintenant, de vraiment prendre le leadership et d'apprendre de tout ça pour justement ne pas se comporter de la même façon. Tu disais tout à l'heure, tu connais les membres de mon association, et je trouve qu'entre jeunes femmes, on collabore plus. On n'a pas de barrière, on se passe les informations, on se donne des coups de main. Donc moi, je pense que c'est à nous vraiment de travailler à ne pas tomber dans ce genre de situation.
D'accord. Alors, M. Duara, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Je voulais justement réagir pour dire que, d'abord, il ne faudrait pas présenter la situation des femmes leaders comme étant une situation sans issue. D'espérance. D'abord, des femmes extrêmement battantes qui ont relevé d'innombrables défis au Mali jusqu'à nos jours. Si on a même la loi qu'on a aujourd'hui, si on a la loi sur les VDG qui est en cours de discussion, ce n'est pas validé, c'est grâce au combat de ces femmes. Mais si elles étaient davantage ensemble au sein de la société civile, au sein des critères de la société civile, elles auraient pu faire un impact plus important. Et c'est un impact plus important dont le Mali a besoin. C'est pour ça que nous souhaitons qu'elles s'entendent. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Mme Darson Amali. D'abord, la société civile féminine ne se limite pas à elle. Même si aujourd'hui, on n'a pas besoin de se priver de ce qu'elles peuvent apporter. Et au-delà de cela, il y a souvent aussi des questions d'approche. Je voudrais signaler qu'il y a le National Democratic Institute for National Affairs, NDI, qui a initié la création de la convergence des femmes pour la paix au Mali, qui réunit pratiquement toutes les grandes frontières qui sont dans cette posture-là. Ça n'a pas été facile, mais les gens ont été ensemble, ils ont conduit ensemble un projet. Donc, il y a du travail à faire là-dessus, on peut capitaliser et ça permettra d'évoluer. Et je suis heureux de voir que la jeune génération est en train également de s'organiser pour relever ce défi. Et je suis rassuré par les analyses que j'entends, parce que ça montre que en matière de militantisme féminin, la relève est là.
D'accord. Alors, Madame Meiga, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que les femmes puissent jouir de leurs droits dans ce sens?
Mais déjà, je suis tout à fait d'accord également avec tout ce qui a été apporté précédemment. Il est vrai effectivement que voilà, on doit aller au-delà de toutes ces, on doit vraiment inculquer un débat intergénérationnel pour apprendre des erreurs du passé pour que les femmes aujourd'hui avancent et aussi ne pas oublier que les femmes. Ce que je retiens en tout cas de tout ce qui a été dit tout de suite, c'est que les femmes sont également actrices en fait du changement et qu'elles ne sont pas juste des victimes passives ou non. Il ne faut pas nous voir que juste comme des victimes en fait, mais plutôt comme des actrices des conflits souvent même d'ailleurs, ou des actrices du changement pour la paix. Et aujourd'hui, ce qu'il faut changer, c'est déjà dans le domaine de la gouvernance, en matière de prévention de conflits, c'est vraiment impliquer les femmes aujourd'hui dans les postes électifs. En 2015, on a réussi à faire ça avec la loi de décembre 2015, avec le quota de 30% qui a été respecté d'ailleurs au cours des communales. On a aujourd'hui 2800 femmes élues. On est espère qu'avec les législatives également, il y aura plus de femmes à l'Assemblée nationale. Donc tout ça, ce sont des avancées en fait notables qui poussent les femmes à être des actrices du changement et à éviter en fait de faire les mêmes erreurs et à aider pour la phase de post-conflit de faire laquelle on se tend aujourd'hui au Mali.
D'accord. Et vous, Madame Diallo? Qu'est-ce qu'il faut pour que les femmes puissent jouer pleinement leur rôle dans ce processus-là?
Bon, déjà, moi, je pense qu'il faut déjà respecter les lois. Et voilà, que ce soit les lois nationales ou les conventions, la convention sur l'élimination des discriminations et à l'égard des femmes, le protocole de Maputo, les différentes résolutions 1325, 1820, 1880 et suivants, voilà, qui portent sur la participation égale des femmes aux prises de décision et au processus de paix, et aussi la protection des femmes contre les violences. Parce que ce qu'on n'a pas beaucoup dit sur ce plateau, c'est les pesanteurs socioculturelles qui pèsent sur les femmes, la pauvreté qui, au Mali en tout cas, selon les données, a un visage féminin et jeune, et aussi toutes les discriminations qui sont faites et des pratiques traditionnelles qui relèguent les femmes à des tâches, des travaux domestiques non rémunérés, qui fait que voilà, les filles vont pas à l'école, les femmes elles étudient pas, elles restent à la maison, elles font les travaux domestiques et autres. Et ça, étant qu'on a plus de la moitié de la population qui ne contribue pas justement à la création de la richesse, moi je vois pas comment ce pays va se développer. Donc en fait, souvent quand on parle d'égalité, d'équité, on va nous dire oui, ces femmes là elles sont pas dignes de, voilà, c'est pas des femmes africaines, elles sont trop européanisées, c'est pas des choses qui conviennent au Mali. Je leur réponds tout simplement, si plus de la moitié de la population ne contribue pas à la création de la richesse, je ne sais pas comment ce pays va se développer. Il faut qu'on comprenne le genre sous un angle économique. C'est très simple. Tant que la moitié de la population est reléguée au second plan, ne participe pas, n'a pas de voix, subit les violences, n'a pas d'accès à la terre, etc., toutes les discriminations, on peut faire une liste jusqu'à demain, et que c'est plus de la moitié de la population qui est concernée, on ne pourra jamais sortir de... On va mettre tous les programmes du monde qu'on veut pour sortir de la pauvreté, nous ne sortirons pas de la pauvreté. D'accord. Donc encore une fois, il faut associer l'égalité genre à la croissance économique.
D'accord. Et vous, Madame Diop?
Et bon, ce que moi je dis, ça rejoint un peu ce que Marianne veut dire. J'ai dit, il faut qu'on arrête de confondre surtout les femmes avec les mobiliers dans nos maisons, qu'on arrête aussi de comprendre que nous sommes uniquement corvéables et taillables à merci, mais nous sommes là avec nos voix, nous devons être entendus. C'est vrai, on a des beaux discours, tout ceci, c'est là, avec les différents et protocoles et conventions que le Mali a signés, mais je dis également de ne pas oublier la justice transitionnelle, c'est vrai, mais de ne pas oublier souvent la justice classique, surtout pour les cas de violence sexuelle. Donc, il y a beaucoup de ces cas-là, je dis, c'est un crime très grave qui mérite d'être réparé. Et ces femmes-là qui ont subi ça méritent réparation.
Alors, M. Diouara, doit-on s'attendre à la participation effective des femmes dans le processus de paix?
Alors, moi, je pense que d'abord, il y a des dispositions de l'accord qui spécifiquement appellent à l'implication des femmes qui ne sont pas traitées. Je cite, par exemple, les dispositions relatives à l'ouverture du Haut Conseil des collectivités territoriales à l'implication des femmes, des jeunes, des autorités traditionnelles. De 2015 à nos jours, on n'en a jamais parlé. Je pense également au comité consultatif local de sécurité prévu par l'accord dans le cadre de la gouvernance de la sécurité au niveau des collectivités.
Monsieur Diouara,
qui n'a toujours pas été mis en place.
Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Juste en 30 secondes, si vous pouvez. Oui.
Un point de conclusion, vous dites ?
Oui.
Ok, je dirais simplement en conclusion qu'il faut appliquer les lois, faire la promotion des femmes, mais en même temps, dans cette course, il ne faut pas également se braquer
nécessairement contre le rôle social de la femme, tout comme celui de l'homme d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut savoir présenter la question du genre, promouvoir les libertés de la femme et les droits de la femme, sans remettre en cause sa fonction sociale de base.
Merci beaucoup, Monsieur Duara. Oui, et cela me fait à ce débat, toutes nos excuses, nous sommes rattrapés par le temps, et cela met fin à ce débat sur la place de la femme dans la résolution de la crise au Mali. Un grand merci à nos invités. Khadija Meiga, consultante sur la question paix et sécurité au Sahel. Madame Diallo, Mariam Dramé, présidente de l'association Femmes Leadership et Développement Durable. Madame Diop, Djenaba Mariko, présidente de l'association pour la protection et la promotion des droits des femmes et des enfants. Mamadou Diouara, sociologue. C'était une présentation de Fatmata Togola à la mise en onde. Salim Diouara, la régie est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani.
Le grand dialogue,
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Haloud Mawdi.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.